recevoir. Parce que, extraordinaire. Alors, il a un enfant, mais ce n'est pas son enfant, Ismaël. Pourtant, il sera aussi béni par Dieu. Et il aura aussi un territoire. Et son territoire, ce sera le désert. Ismaël. Les Ismaélites. Donc, les musulmans se reconnaissent comme les fils. Et alors, vous avez ce fameux chapitre 18e de l'apparition de la théophanie de Dieu à Mandré. Trois hommes viennent visiter Abraham. Trois hommes. Ils sont trois. Et Abraham s'adresse aux trois comme au Seigneur. Ils sont trois, ils sont un. C'est pour ça que les pères de l'Église verront, hein, dans cette image de Mandré, de la visite des trois visiteurs, verront la présence de la Trinité, qui a donné dans l'iconographie byzantine, Koulioff notamment, cette image de la Trinité, qui laisse place à celui qui regarde. Et vous avez donc cette venue, cette annonce qui est faite. Maintenant, l'autre reprit, je reviendrai chez toi l'an prochain, alors ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui se trouvait derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc Sarah rit en elle-même en disant, maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir. Et mon mari qui est un vieillard. Mais le Seigneur, bah, il dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Se disant, vraiment, vais-je encore enfanter alors que je suis devenu vieille? Il n'y a rien de trop merveilleux pour le Seigneur. Luc se souviendra de cela. À la même saison, l'an prochain, je reviendrai chez toi, Sarah aura un fils. Sarah avait menti, je n'ai pas ri. Dit-elle, car elle eut peur. Et il répondit, si tu arrives. C'est pour ça que pour expliquer le sens de Yitzhak, hein, Isaac, qui veut dire Dieu rira, Dieu rit, Dieu se rit. Qu'est-ce que cette histoire nous raconte, sinon que Dieu est l'unique maître de la vie, que nous ne pouvons pas accaparer la vie pour nous, aucune vie. Puis, nous avons l'histoire de l'intercession d'Abraham pour Sodome. Il marchande Sodome qui va être détruite par le feu. Au début c'était le déluge, maintenant c'est le feu. Ce sont deux éléments, hein, qui sont à la fois deux éléments de vie et deux éléments de mort. On comprend comment, hein, il se déploie. Et ce marchandage d'Abraham avec Dieu montre que la générosité d'Abraham est limitée par celle de Dieu, mais que Dieu fait comme Abraham lui-même. Si j'en trouve 10 justes dans ce don. En même temps, c'est un petit couplet pour dire que l'homosexualité est contre nature. Donc ça n'a pas le droit d'exister. Évidemment, c'est là que qui est raconté à travers l'histoire. Mais aussi, générosité, il demande de pardon, pardonner à tous, à cause de ceux qui intercèdent pour les autres. Il y en a toujours, nous disons souvent qu'ils payent pour les autres. C'est leur grâce, évidemment. C'est de pouvoir souffrir pour l'autre. C'est vraiment l'épanouissement de l'être qui ne tient pas à cette affaire, mais qui est pour l'autre, tout simplement. Destruction de Sodome. Hein. Et puis on vous raconte chaque fois, hein, les origines d'autres peuples. Et finalement, vous avez la naissance d'Isaac, le renvoi d'Agar et d'Ismaël, vous connaissez l'histoire, et puis ce fameux sacrifice d'Abraham. Pas d'Isaac, Isaac n'est pas sacrifié. Et de nouveau, ce qui nous est dit dans ce texte, c'est que Dieu est le seul qui donne la vie. Il la donne à travers les tâtonnements de l'homme, bien sûr, mais que la vie est vraiment originée en Dieu. Et donc, même l'enfant qui m'est donné par pure grâce, je dois accepter qu'il soit une pure grâce. Et c'est la manière dont la Bible nous dit que la paternité divine est à découvrir par l'homme. Abraham découvre que être père, c'est vraiment être père d'un enfant, pas mettre la main sur lui. Il va être tout à fait libre. Il va lui-même découvrir à travers une souffrance appréhendée, va découvrir qu'il ne dépend pas de son Père, mais qu'il dépend de Dieu. Que Dieu est vraiment celui qui nous fait. Vous voyez, c'est tout un itinéraire spirituel de la paternité et de l'homme vis-à-vis des femmes et d'autres nations, d'autres, on ne peut pas encore parler de nations, d'autres peuples autour de lui. Et finalement, vous avez au chapitre 23, la durée de la vie de Sarah fut de 127 ans. Elle mourut à Kiriat Arba, cet Hébron, au pays de Canaan. Effectivement, probablement que une tribu, qui a véhiculé dans sa mémoire ces différents textes d'un père qui a existé historiquement ou pas, ça c'est très difficile à dire. En tout cas, ses souvenirs se sont agglomérés autour d'un personnage. Et cette tribu se trouvait autour des bronzes. Son lieu de nomadisme se faisait autour des bronzes. Et alors vous avez un beau texte au chapitre 23, où, pour enterrer sa femme, Abraham discute, c'est encore un beau marchandage, plus avec Dieu cette fois-ci, mais avec le fils de Heth, un beau marchandage, pour obtenir un territoire. C'est déjà une anticipation de la possession du territoire de Canaan, la grotte de Macpéla, pour enterrer son. Et puis, avant de terminer l'histoire, après cette pompe des patriarches, vous avez le mariage d'Isaac. Important, évidemment. S'il faut des générations, là, il faut une femme. Et on ne va pas prendre une femme parmi les Cananéens, ça ne va pas. On va la prendre dans la famille d'Abraham. Et voilà que Eliezer s'en va pour rencontrer une fiancée qui va être Rebecca, Rivka. Le terme de Rivka signifie celle qui est attachée. On appelle Rivka, par exemple, des bêtes qui sont à la pâture, mais qui sont attachées, ou bien à l'étable. Et alors, on nous raconte, pour terminer, la mort d'Abraham, et puis la descendance d'Ismaël. La bénédiction va du côté d'Isaac, mais Ismaël est aussi béni. C'est une autre bénédiction. Et ces différences sont toujours importantes dans la vie. Elles sont mises sous le signe de la préférence. Préférence, ça signifie aimer autrement. Nous traduisons souvent aimer plus ou aimer moins. Ça ne va pas ça, on n'aime pas plus ou moins, on aime. Mais la préférence veut dire je suis aimé comme ça, comme je suis. Et moi je suis aimé comme ça, c'est-à-dire comme je suis. Et c'est toujours difficile parce que nous comparons. C'était déjà vrai avec Cain et Abel, et ça continue. Ça continue, ça veut dire que l'homme a cette propension-là. Et puis on va vous raconter l'histoire d'Isaac et de Jacob. La naissance, une naissance bizarre. Mais les deux fils, Isaac et Ismaël, étaient issus du même père, mais c'était seulement des demi-frères. Ce n'était pas la même mère. Et maintenant, Isaac et Jacob, ce sont deux jumeaux. fils de la même mère. Qu'est-ce qu'elle est née? Ils ont eu un aîné. Mais voilà que son frère, hein, en sortant du sein de sa mère, hein, agrippe le talon d'Ésaü. C'est pour ça qu'on va l'appeler Jacob, celui qui agrippe le talon. Mais ça veut dire aussi celui qui supplante. Les noms sont donnés après, évidemment. Et donc, qui est-ce qui est né le premier? Est-ce qu'il y en a un? Ou est-ce qu'ils sont tous les deux? Donc, celui qui sort la tête le premier, elle est née. Et nous allons voir l'histoire de deux frères qui va se répéter. Mais cette fois-ci, ce sont deux véritables frères. Deux frères qui vont devenir ennemis. Ennemis pourquoi? Ah tiens, ennemis par rapport à une bénédiction. Il y en a un, le plus jeune, qui vole la bénédiction à l'autre, l'aîné. Mais il le vole. Il vole une bénédiction parce qu'il a vendu son droit d'aînesse. Alors là, il y a un jeu de mots, évidemment. Le droit d'aînesse se dit Bekora en hébreu. Bekora, B-K-R-E-S-H. Et la bénédiction se dit Bekora. Vous avez les mêmes lettres, vous voyez, mais en sens inverse. Donc on peut vendre un droit de naître, une Bekora, pour avoir une bénédiction, hein, elle va être transformée en quelque sorte par une bénédiction. Ésaü cède son droit de naître, hein, et bien alors, Jacob doit s'enfuir pour échapper à son frère qui lui en veut à mort. Et alors commence l'histoire de l'éloignement. Effectivement, Jacob s'en va. Il va retrouver la souche familiale. Et il faut dire évidemment que ici encore il y a une histoire de préférence, puisque Ésaü est le préféré de son père, Isaac, tandis que Jacob est le préféré de sa mère. Et comment vont les choses? Et alors, Jacob arrive dans le pays de Padamaram, hein, qui est la souche familiale, et il arrive chez Laban. Et la même histoire qu'avec entre Eliezer et Rebecca se répète avec Jacob, qui arrive dans le pays de ses ancêtres et qui découvre, hein, sa future femme Rachel. Il y a des relations entre Jacob et Laban, où, comme il est pauvre, il n'a rien quand il arrive, il va petit à petit acquérir, hein, de la fortune, il va l'acquérir sur le dos de son beau-père, évidemment. Hein, il travaille pour avoir, hein, Rachel, celle qu'il aime, la brebis mère, et son beau-père lui donne d'abord l'aînée, Léa, c'est-à-dire la vache, ou la fatiguée. Et alors, cette histoire qui est une histoire constamment d'intrigue nous met bien dans le climat de nos histoires humaines. Et l'histoire de Jacob se trouve insérée dans un rapport avec Dieu. Et ce rapport avec Dieu se situe, le premier à Bethel, le dernier à Bethel, on revient, et presque, hein, l'avant-dernier en quelque sorte, au Guéluyabok. Le Guéluyabok se situe là, au chapitre 32. Très important, le songe de Jacob. Lui, enfin, la tribu qui se réclame de l'ancêtre Jacob se situait autour de Beersheba. On ne sait pas très bien si c'était vraiment le fils. Mais il y avait un autre personnage, un certain Jacob, qu'on va appeler après Israël. Pour quelle raison? C'est difficile à dire. Mais il en a disait autour de Beersheba, donc dans le Negev. Et il prit des pierres du lieu, la mit sous sa tête, et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Une échelle était plantée en terre, son sommet atteignait le ciel, et les anges de Dieu y montaient et descendaient. Il est curieux, hein? C'est-à-dire qu'ils ont dit descendre, puis ils montaient, hein? Mais c'est pas ça. Ils montaient, ils descendent. Les anges, c'est cette aspiration de Dieu, de l'homme vers Dieu, et la descente de Dieu vers l'homme. Voilà que le Seigneur se tenait devant lui et dit, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Voyez de nouveau, terre et descendance. Ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol et débordera l'Occident et l'Orient au septentrion et au midi, donc les quatre points cardinaux, et toutes les nations du monde se tenieront. Ça, ce sont les chaînons de la tribu, par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et te ramènerai en ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas que je n'ai accompli ce que je t'ai promis. Et donc tout va être enserré entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. Il va revenir à Bethel. Jacob s'éveilla et dit, en vérité, le Seigneur est en ce lieu. Je ne le savais pas. Il eut peur. Et dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. Découvrir cette présence de Dieu. Et puis avec cette présence de Dieu, vous avez l'amant, les deux mariages, les enfants de Jacob, on va leur donner à tous un nom d'après la manière dont ils sont nés, important évidemment. Et puis Jacob qui s'enrichit, comme je vous le disais, aux dépens de Laban, et finalement il s'en va, il quitte pour rentrer. Mais il quitte pour rentrer. Laban poursuit Jacob et puis ils font un pacte, il y a moyen de s'arranger, de négocier. Il y a un traité, intéressant toujours pour voir toutes les manières d'agir les uns vis-à-vis des autres. Et puis la préparation, au chapitre 32, la préparation de cette rencontre avec Ésaü, il va rencontrer son frère. Et il pense que son frère toujours lui en veut à mort. Et il prend toutes ses précautions. Et il est angoissé. Et cette angoisse se passe la nuit, il s'est séparé de ses femmes, il en a fait des loups d'hiver, Machanaïm, deux campements, pour le cas où son frère tomberait sur lui et voudrait faire la razzia de ses femmes et de ses enfants. Cette même nuit, il se leva, il prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants, et passa le Gilead, parce qu'à ce moment-là, Benjamin n'est pas encore là. Et quelqu'un, littéralement, Ish, un homme, quelqu'un, lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa en l'emboîture de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, lâche-moi, car l'aurore est levée. Et Jacob répondit, je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Jacob, répondit-il. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, car une étymologie populaire, tu as été fort contre Dieu, contre les hommes, tu m'emporteras. Dieu est l'homme. L'homme est une présence de Dieu. Et c'est déjà, cet homme est déjà à la fois sa propre angoisse, qu'il doit lutter, contre laquelle il doit lutter avec Dieu, et c'est l'image qu'il se fait d'Israël. Et finalement, un peu après, quand Ésaü arrivera à lui comme le miséricordieux, c'est Ésaü qui fait le premier pas. Donc, cette idée, cette image qu'il avait d'Ésaü en colère, elle n'existe plus, sinon dans la pensée, Très souvent, nous faisons comme ça aussi. Hein. Faisons des romans, hein, nous pensons que l'autre pense. Du mal de nous, évidemment. Alors que ce n'est pas nécessairement vrai. C'est nous qui le pensons. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas nécessaire. Et alors, il y a un petit passage important de la violence qui est faite à Dina, qui est la seule fille de Jacob. Mais c'est pas Sichem. Sichem, c'est la future Samarie. Alors, il faut montrer qu'il y a des liens avec Sichem et que ces liens sont parfois susceptibles hein, d'une autre façon de vivre les uns avec les autres, d'incompréhension. Il faut montrer toujours que tout se trouve déjà en germe au départ. On ne parle pas encore de Samarie, mais il y a un pacte et puis une vengeance de deux frères. Ils ne sont pas entrés véritablement dans le pacte. Vengeance de Siméon de Lévi. Et puis, Jacob se retrouve à Bethel, au chapitre 35. Monte à Bethel et fixe-toi là-bas, tu y feras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais la présence de ton frère Ésaü. Et Jacob dit à sa famille, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez vos vêtements, debout et montons à Bethel, j'y ferai un autel au Dieu qui m'a exaucé lorsque j'étais dans l'angoisse et m'a assisté dans le voyage que j'ai fait. Et Jacob arriva au pays de Canaan, lui et tous les gens qu'il avait, là il construisit un autel, et donna au lieu le nom de Bethel, mais il était déjà donné, peu importe, car Dieu s'y était révélé à lui lorsqu'il fuyait la présence de son. Et puis alors, c'est la naissance du petit Benjamin. Et nous avons comme ça toute cette épopée de Jacob où un certain nombre d'épisodes se sont agglutinés les uns aux autres. Mais ce qui est important, c'est bien sûr la réalité humaine qui est présente dans Jacob, mais aussi ce qu'on appelle un peu hein, tous les mots crochets, les petits épisodes crochets qui montre comment, à travers cette histoire humaine, la présence de Dieu se signifie par la bénédiction, c'est-à-dire par le compte d'Adieu, à travers des chemins hein, qui sont extrêmement sinueux. Et alors, il faut une place aussi à Ésaü, qui lui aussi est béni, bien entendu. Et c'est tout le territoire d'Édom, alors qu'il lui est donné, Séir ou Édom, qui est au-delà du Jourdain. Au fond, toute cette histoire, ce sont des histoires de tribus, et chaque tribu, plus tard, en s'agglutinant les unes aux autres, il n'y a pas encore 12 fils de Jacob à ce moment-là, les 12 tribus qui vont hein, faire une confédération à l'époque de David n'existent évidemment pas encore, mais il y a déjà hein, des tribus qui se rapprochent les unes des autres. Quand deux tribus se rapprochent, eh bien les histoires d'une tribu passent à l'autre tribu, et on communique dans une même mémoire. Et cette mémoire, mémoire de vie entre tribus, va finalement s'exprimer comme l'histoire d'une génération. C'est notre vie qui s'exprime maintenant. Et ce que nous faisons parfois aujourd'hui, lorsque nous essayons de retrouver notre généalogie, la généalogie de nos ancêtres, c'est retrouver vraiment les fondements de notre histoire, quelle qu'elle soit. C'est nous dire qu'il y a véritablement une histoire, même si nous n'en connaissons plus tous les détails. Mais à travers cette histoire, nous remettons toutes sortes d'épisodes que nous avons vécus, que d'autres personnes de notre famille ont vécu, et tout ça s'agglutine, petit à petit. Car il faut bien vous dire que pratiquement avant l'époque de Salomon, on n'a guère écrit en Israël. C'était surtout la tradition orale. Il ne faut pas s'étonner que les choses se soient passées comme cela. Finalement, où est l'historicité du personnage d'Abraham? Le juge nous dirait, mais Abraham, c'est toi. C'est ton histoire. C'est de ton histoire qu'il s'agit. C'est de l'histoire de ta famille. D'une histoire entre autres, mais d'une histoire qui est, quel est le rapport que tu as entre Dieu et l'homme. Car l'histoire n'est peut-être rien d'autre que la manière dont l'homme vit avec Dieu. Nous verrons brièvement l'histoire de Joseph la fois prochaine, et puis nous entamerons l'Exode, parce que là, nous avons de nouveau un chemin.
Si vous voulez bien, nous allons continuer notre lecture du Pentateuque. La fois passée, j'étais resté au chapitre 36 ou 35 de la Genèse, parce que l'histoire de Joseph, qui est l'apprentissage difficile de la fraternité, l'histoire de Joseph est en fait une histoire qui est beaucoup plus récente, qui ne date probablement pas d'avant l'exil. C'est une histoire qui est inspirée d'ailleurs de sources égyptiennes. On peut bien se rendre compte de cela puisqu'il s'agit de l'Égypte. Et qui introduit en fait le deuxième livre du Pentateuque, c'est-à-dire le livre de l'Exode. On avait déjà vu les principaux éléments qui sont utilisés, qui forment un mélange dans le livre de la Genèse. Je vous les rappelle, c'est l'histoire de la paternité et de la filiation. Qu'est-ce que c'est qu'être fils? Qu'est-ce que c'est qu'exister comme un maillon dans la chaîne humaine? Deuxième question, deuxième élément fondamental, la terre. Je vous ai dit que la filiation, c'était prendre place dans la succession, c'est-à-dire dans le temps. La terre, c'est prendre place dans l'espace. Donc ce sont deux grandes dimensions, l'espace et le temps. L'espace, eh bien, nous avons un lieu, un environnement, hein, un lieu où nous habitons, un lieu qui est en quelque sorte nôtre, sur lequel nous mettons notre nom. Mais ces deux éléments sont vécus dans l'histoire de la Genèse, sont vécus face à Dieu. Et il y a le temps et l'espace qui sont dans l'ordre humain, mais il y a la relation à Dieu, la relation homme-Dieu qui se donne dans la Bible sous forme de bénédiction surtout, c'est-à-dire le don de la vie, ou bien sous terme d'alliance, une alliance entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire on marche ensemble, Dieu est présent à l'homme et l'homme est présent à Dieu. Et puis ça se donne aussi dans les termes de promesse. Mais on ne sait qu'une chose est promesse que quand ça s'accomplit. Je vous ai dit que la promesse, c'est au fond le désir qui est dans l'homme, c'est-à-dire une présence de Dieu qui est dans l'homme et qui demande à s'accomplir. Mais nous pouvons en faire une convoitise, mettre la main dessus, ou nous pouvons le faire comme un reçu, un cadeau que nous recevons continuellement. Et chaque don de Dieu est la promesse d'un Dieu ultérieur. Donc le don est une espérance. Voilà, tout est exprimé en termes de promesse. Il y a des désirs en nous, ces désirs seront comblés, pas toujours de la manière dont nous désirerions qu'ils soient comblés, ça c'est autre chose. Mais ils seront certainement comblés dans la mesure où nous rapportons ces désirs à Dieu. Voilà un petit peu la thématique que nous trouvons à travers la Genèse. Et alors, comme c'est aussi la vie aujourd'hui, comme c'était une vie d'abord personnelle, puis une vie de famille, eh bien c'est exprimé dans des termes personnels, et puis relation homme-femme, relation fraternelle, relation génération et relation entre peuples, c'est-à-dire avec d'autres sociétés. Dans mon livre, il y a une logique qui est comme le fil rouge de cette histoire. Mais, et ça c'est probablement une relation qui vient de plus tard, lorsque, après l'exil, on a voulu mettre toute l'histoire ensemble et agencer les différents livres du Pentateuque, on a explicité alors cette histoire de fraternité. La fraternité, c'est pas seulement entre deux frères, mais la fraternité peut exister, et elle devrait exister entre des tribus fraternelles. Nous avons vu que les noms des 12 fils de Jacob symbolisaient en fait différentes souches de familles, différentes souches de tribus, de clans puis de tribus. Et s'il y a 4 femmes de Jacob, c'est pour nous dire que les tribus qui s'uniront à l'époque de David et de Salomon, ces tribus viennent au moins de 4 souches différentes. Il y a des tribus qui étaient là depuis longtemps, ce sont les tribus du sud. Puis il y a les tribus qui ont été en Égypte, nous allons voir l'histoire dans le livre de l'Exode, et ce sont les tribus du centre. Et puis nous avons les tribus du nord et de l'est, qui se sont installées là dans le nord et dans l'est, en Galilée ou bien en Transjordanie, et qui viennent encore d'autres souches. Et pour dire cela, on explicite la chose comme s'il y avait donc 4 femmes de Jacob, deux femmes qui sont les épouses légitimes, et puis deux qui sont les enfants des esclaves, des mères porteuses. Donc vous voyez un peu comment cette histoire petit à petit s'est agencée. Mais cette histoire s'est agencée non pas pour nous dire ce qui s'est passé, mais pour réfléchir sur un certain nombre de souvenirs qui sont présents dans toute vie humaine. Maintenant, il faudra passer de la constitution d'une famille, d'un clan, de tribus, à la constitution d'un peuple. On va réfléchir maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Et il faut introduire, un peuple n'existe pas seul, il existe toujours avec d'autres peuples, qui sont amis ou ennemis. Et donc il faut maintenant introduire l'Égypte. L'Égypte, dans la tradition juive, en tout cas d'après l'exil, l'Égypte signifie esclavage. Alors, pour passer de l'histoire de Jacob à l'autre histoire, c'est-à-dire d'une histoire patriarcale, à une autre histoire, qui est une histoire plutôt de type prophétique, eh bien, nous avons ce livre de Joseph qui traite de la fraternité difficile, onéreuse, odieuse parfois. Et on introduit alors le thème de la préférence. Ce thème de la préférence. C'est-à-dire que ce que nous explicitons sur le plan humain comme étant une prépondérance d'un élément, dans la famille par exemple, on va l'introduire ici. Mais en la plaçant dans la relation avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire qu'un papa, une maman préfère un enfant? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu préfère un peuple? Ça veut dire qu'il aime d'une manière particulière. Et une préférence, c'est ce que chacun vit normalement. Chacun est le préféré, mais d'une manière différente. Et toujours, l'homme compare, il veut avoir ce que l'autre a. Et ça, c'est évidemment, nous l'avons vu dès le départ, la source du malheur, c'est la source de l'enfermement. Et au contraire, si on veut dépasser cela, il faut aller vers l'autre et découvrir que l'autre est une merveille. Et on ne peut pas avoir ce que l'autre a, mais on se réjouit de la merveille qu'il est. Et c'est tout ce travail à faire que nous découvrons depuis le début et qui est encore présent ici. Il était déjà là avec Caïn et Abel. Et alors, comme nous sommes en salle d'attente pour entrer en Égypte, eh bien, on vous donne un beau roman, le roman de Joseph, le roman de la fraternité. Vous connaissez bien cette histoire, je suppose que vous l'avez bien relue, entre 35 et 50. Et donc, pour manifester qu'il y a des relations, des rapports avec l'Égypte, et que même certains, peut-être un tout petit nombre, certains ont été en Égypte. Très difficile à dire parce qu'on ne trouve pas beaucoup de sources extra-bibliques nous permettant de savoir s'il y a de fait des Sémites, il y a probablement quelques tribus, mais qui ont travaillé en Égypte à la construction des édifices religieux royaux de l'Égypte. Et alors, l'histoire que vous trouvez de la, d'un frère qui est préféré et dont les autres, que les autres jalousent, et puis qui se trouve dans une situation difficile à cause de son honnêteté fondamentale, vous retrouvez ça dans un roman égyptien. Et le roman égyptien qui a précédé, évidemment, du 13e siècle avant Jésus-Christ, qui a précédé le texte de la Genèse ici, et on voit bien que c'est une relecture, mémorisée, dirons-nous, de cette histoire. Tout cela pour se terminer au chapitre 50e, donc 49 d'abord, et puis 50e, qui sont les bénédictions de Jacob. Le thème de la bénédiction, qui est le thème du don de la vie, repasse ici. Et alors, ce texte qui date évidemment d'après l'exil, nous dit un peu, comme une promesse, l'histoire que formera chacune des 12 tribus, chacun des 12 fils. Et on prend un certain nombre de symboles, des symboles qui sont comme des totems, Judas, le lion. Et on essaie de découvrir dans chacune des tribus, dans l'avenir de chacune des tribus, les thèmes qui sont présents, qui caractérisent en quelque sorte ces différentes tribus. Ruben, tu es mon premier-né, chapitre 49. Simon et Lévi, son frère, mais il y a constamment de la magouille dans Simon et Lévi. C'est pour ça, c'est parce que les descendants de Lévi sont des gens plutôt cruels et qui aiment bien le sang, mais on va en faire des prêtres, des bouchers. Voilà. Mais que mon âme n'entre pas en leur conseil, que mon cœur ne s'unisse pas à leur groupe. Autrement dit, on a bien vu dans l'histoire de Joseph que l'inimitié entre les membres d'une même famille, ça ne va pas. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur dérèglement, mutilé les taureaux. Maudite leur colère pour sa rigueur, maudite leur fureur pour sa dureté. Je les diviserai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Et c'est pour ça qu'ils ne font pas, ils n'ont pas de terre, eux, les Lévites. Ils travaillent au temple, chacun a son mois ou sa semaine, et ils ne se retrouvent jamais tous ensemble, comme ça ils se disputent. Ils ne se disputent pas. Judas, toi et tes frères te loueront. Vous voyez, on parle de Judas, parce que c'est de Judas que viendra la royauté, David. Et donc voilà un peu décrite ici, dans les bénédictions, un peu décrite l'avenir. Tout ce qui viendra plus tard se trouve déjà en germe, dans le premier noyau. Et c'est cela que l'on veut nous dire. Mais évidemment, ces tribus telles qu'elles sont décrites, c'est une histoire qui est vraiment, qui viendra après, bien entendu. Mais il fallait montrer que Dieu aime ce qui est brimé, ce qui est opprimé. L'option préférentielle pour les pauvres, elle se trouve déjà là. Et puisque Joseph est opprimé, Dieu est avec Joseph. C'est le nom de Joseph qui veut dire celui qui grandit, exprime la manière dont Dieu grandit dans chaque humain. Et comment Dieu le permet à chaque homme de donner la mesure de soi-même. Tout ce que nous le sommes pour Dieu. Et alors quand Joseph se fait reconnaître par ses frères, je suis Joseph, votre frère, au chapitre 45e, que vous avez vendu en Égypte, mais maintenant ne soyez pas chagrin. Car l'histoire de Joseph nous décrit cette culpabilité qui grandit dans le cœur des disciples, dans le cœur des frères de Joseph, pardon, cette culpabilité qui grandit en raison de ce qu'ils ont fait pour leur plus jeune frère. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte, mais maintenant ne soyez pas chagrin, ne vous fâchez pas de m'avoir vendu ici, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Voici en effet 2 ans que la famine est installée dans le pays, il y aura encore 5 années sans la bourse du moisson. C'est pour préserver vos vies. Quand nous sommes brimés, c'est pour que notre vie soit préservée et la vie des autres. Et nous pouvons découvrir dans un autre thème qui va petit à petit se développer dans la Bible et déjà dans le Pentateuque, c'est la médiation et l'intercession. Nous sommes des intercesseurs la plupart du temps entre Dieu et nos frères. Et entre nos frères et nos frères, bien entendu aussi. Et alors nous avons Jacob qui s'en va en Égypte, mais il faudra ramener les ossements dans la terre qui va être appelée par après la terre promise. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais nous nous arrêtons là parce que nous devons essayer de voir comment le fil rouge continue à travers les autres livres. Et à la fin de la Genèse, du livre de la Genèse, on nous parle des fils d'Israël, des Bené Israël, ou les enfants d'Israël. Et tout au début du livre de l'Exode, voici les noms des enfants d'Israël qui, chacun avec sa famille, voilà le chaînon, accompagnèrent Jacob en Égypte, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Asher. Voilà le nom de ce qui deviendra les 12 tribus à l'époque de David. Les descendants de Jacob étaient en tout 70 personnes, un tout petit groupe quoi. Joseph, lui, était déjà en Égypte. Puis Joseph mourut ainsi que tous ses frères, et toute cette génération, voilà la question des générations qui revient ici. Mais les enfants d'Israël, voilà le terme, toujours Bené Israël, féconds comme ils l'étaient, pullulèrent, ils devinrent nombreux et puissants à l'extrême, au point de remplir le pays. Et voilà l'argumentation, l'intrigue qui va commencer. Je vous ai donné à la page 15, ce sont les feuilles que Jean-Pierre Sonnet a prises lorsqu'il avait donné le cours, donc je le remplace ici. Et à la page 15, vous avez une sorte de plan du deuxième livre, du livre de l'Exode, avec un certain nombre de textes qui sont un peu en retrait, plutôt qui sont vers la droite. Et ce sont généralement des textes que l'on dit normatifs. C'est-à-dire que nous allons voir, il y avait déjà un tout petit peu, mais pas beaucoup, nous allons voir des textes de loi, de prescription, qui vont être mêlés à des récits. Le genre littéraire va varier. Il y a un rapport entre des lois et des récits. C'est très important ce rapport. Ce n'est pas seulement un code de loi, qui vous donne des prescriptions qui tombent du ciel, comme cela, et qui sont nées d'un consensus. Non. Il y a des lois, des prescriptions qui sont rapportées à Dieu, et comme Dieu vit dans tout homme est à l'image de Dieu, comme Dieu vit dans tout homme, cette loi est inscrite en notre être. La présence de Dieu est en fait un dynamisme moral, un dynamisme éthique. Parce que cette présence de Dieu est là, en chaque être. C'est comme le mode d'emploi intérieur. Vous pouvez prendre un ustensile sans lire le mode d'emploi. Vous pouvez aussi lire le mode d'emploi pour savoir comment l'utiliser au maximum. Bien, c'est un petit peu ça. La loi, dans les textes qui vont venir, et nous verrons que le texte du Lévitique est presque uniquement des lois, la loi est constructive de l'homme. Elle instaure, elle construit la liberté humaine. Plus nous connaissons d'éléments, plus nous faisons attention à ces quantités d'éléments, plus nous pouvons être libres. Nous croyons qu'on est libre quand on traverse la rue de la loi un dimanche matin, la personne. Mais non. On est libre quand on est dans la presse, dans l'encombrement. Quelle est notre réaction? Nous voyons en ce moment-là, si nous nous énervons, si nous sommes pressés, ou si nous prenons les choses très agréablement, parce que les autres ont aussi le droit de rouler. Vous voyez? Ces deux mentalités, elles existent encore aujourd'hui. Alors, nous avons donc dans et la page 16, alors, vous donne en quelque sorte le fil rouge. Le fil rouge de ce livre. Ces deux pages vont ensemble. Hein. Une, c'est un plan abstrait. L'autre, c'est une reprise de quelques versets importants dans le livre, et comme vous avez lu, ou comme vous relirez certainement tout le livre de l'Exode ces jours-ci, eh bien, vous allez vous rendre compte des versets qui sont essentiels, qui donnent des jalons, qui éclairent, comme des balises sur la route. Les fils de Jacob ou d'Israël, c'est ce qui est dit dans la première ligne de la page 16, au peuple des fils d'Israël, je viens justement de reprendre ce verset, ou la naissance d'Israël comme peuple maintenant. Il ne s'agit plus de personnes, de familles, de clans, de tribus, il s'agit d'un peuple. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Réflexion politique, par excellence. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Et il faudra arriver, au chapitre 4, verset 22, à découvrir que mon fils premier-né, c'est Israël. Le premier-né, on le préfère peut-être, mais c'est parce qu'on lui donne une responsabilité, précisément la responsabilité de veiller sur les frères et sœurs quand les parents ne seront plus là.